si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Libre Radio, la radio qui ne se fait aucune illusion. www.libradio.org.
Nous sommes donc à La Ville est à vous, chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue à La Comète et à la Banane. Nous sommes ensemble radiophoniquement jusqu'à 17 voire 18h, en direct certes, mais en public également, au 7, devant le 7 Avenue Blanc, qui est l'adresse de la ludothèque de Sécheron. Viens donc découvrir des jeux, il y en a certains ici qui sont absolument drôlissimes et qui sont peut-être méconnus, plus méconnus que les grands classiques comme le Wasabi, qui est un jeu quand même bien connu, comme le Blocus, hein, qui sont des jeux bien connus, mais un jeu par exemple comme le Picomino, hein, voilà, ça ce sont des jeux qui sont vraiment très drôles, dont vraiment la dynamique est vraiment très très amusante et qui sont quand même moins connus, tu peux venir les découvrir ici. Et également jouer aux échecs, hein, il y a l'association des échecs, il y a les maquillages pour les enfants, pour les petits et pour les grands, les bricolages également, bref, rejoins-nous-y. Jusqu'à 18h pour la radio et puis bien entendu que la soirée, elle, continuera plus tard ce soir avec des concerts et encore un programme, bien entendu, fourni que l'on égrènera un petit peu plus tard. Jean Stern, bienvenue à toi. J'espère Bonjour. Que j'ai bien prononcé ton nom.
Stern, ouais, Stern, ça va.
Voilà. Nous avions eu un entretien avec une Aurélie Stern, ouais, qui avait produit un livre magnifique sur le féminisme en Turquie. Est-ce que par hasard tu en aurais entendu parler?
Non, absolument pas. Je la connais pas en plus.
Bon, bah voilà, tant pis. Mais voilà, c'était parce que l'homonymie m'a conduit à, voilà, à te le dire. Alors, tu es toi-même le cofondateur de Guépier en 1979.
Oui, absolument.
Guépier, peut-être voudrais-tu en dire quelques mots?
Oui, bien sûr. C'était le premier hebdo homosexuel en France qui avait été fondé, qui était issu, ce qui est important, des groupes militants, du groupe de libération homosexuelle précisément, qui s'appelait Politique et Quotidien, donc ça donne bien l'intention de ce qu'on voulait faire à l'époque. Et on a décidé de lancer un journal au printemps 79, journal qui était d'abord un mensuel, entièrement militant, entièrement bénévole, et qui puis dans les années 80 s'est devenu plus professionnel, est devenu un hebdo surtout, et qui a disparu dans les années 90 en France.
D'accord. Selon toi, est-ce qu'il y aurait un héritage de ces personnes-là? D'autres projets ont certainement suivi ou ça s'est un peu éteint quand même?
On peut dire que ça s'est beaucoup éteint pour plein de raisons qui sont liées d'abord au sida, hein, une génération décimée, et qui sont liées au fait aussi que d'une certaine manière, le dernier grand combat militant des homosexuels occidentaux, c'était la lutte contre le sida dans les années 90, et que depuis, on peut considérer que la communauté LGBTI est plutôt éteinte globalement.
D'accord, ouais, ça c'est un dur constat, mais voilà, c'est le constat que tu fais en tout cas.
Ouais.
Dis-moi, à l'époque, en 79, quand justement Guépier a surgi, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été une espèce de choc comme ça? Comment les gens l'ont pris?
Eh bien, écoute, oui, ça a été très important parce que, au fond, l'intention du projet est dit dans le titre. Guépier, on était tous très jeunes, à l'exception de notre parrain intellectuel, sympathique d'ailleurs, qui était Michel Foucault. Et c'est Michel Foucault qui a trouvé le titre. Il a dit, vous êtes gay, vous avez envie de prendre votre pied, mais en même temps, vous êtes dans un piège, donc on va appeler Jean-Al Guépier. Donc, le titre donne très bien l'intention de ce qu'on voulait faire à l'époque. On était très jeunes, évidemment, oui, mais on avait l'idée quand même de gagner en visibilité, de montrer qu'on pouvait être homosexuel sans être malheureux, de montrer qu'on pouvait être homosexuel et l'assumer. Donc d'une certaine manière, oui, c'était un mouvement très important et très vite le succès d'ailleurs du journal qui, dès les années fin des années 70 donc, et début des années 80, se vendait à plus de 20 000 exemplaires comme mensuel, ce qui était important sur le marché français malgré tout.
Et puis il faut dire que c'est quand même un nom tutélaire de ce qui concerne justement la presse active, oui, activiste,
oui,
du milieu homosexuel. Certainement, nous en tout cas en Suisse, on en a entendu parler, bien entendu, beaucoup.
Bien
donc,
sûr.
Pour nous, c'est une référence clairement, quoi.
Bien sûr.
Est-ce qu'on peut également dire que certains dessins qui étaient les vôtres au moment où vous avez cofondé, où vous avez fondé Guépier, ont été atteints? Ou est-ce que le constat après l'existence de Guépier est un petit peu plus mitigé?
Non, évidemment, il y a une chose qui a été atteinte, et c'est pas seulement Guépier qui l'a fait, c'est beaucoup, beaucoup d'autres acteurs, c'est le fait que beaucoup d'homosexuels ont pu se montrer, s'assumer, vivre publiquement leur identité. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait tout au long des années 80, c'est quelque chose qui a été très important et qui pour moi est très connecté aussi quand même à la lutte contre le sida, parce que après la libération sexuelle des années 70, ben, le début des années 80, il est quand même marqué par la mort, il est marqué par la violence de ce qu'on rencontre, il est marqué par la violence de cet inconnu aussi les premières années, une maladie pas soignée, nos amis mouraient comme des mouches les uns les autres, on a perdu énormément d'amis et de camarades à l'époque. Donc si vous voulez, c'est vrai que le combat de Guépier ne s'arrêtera jamais à la conquête de droits, c'est-à-dire que je crois que même si les gays ont des droits, en France on a le droit au mariage par exemple, je sais pas en Suisse aussi...
En Suisse, c'est plus compliqué. C'est pas exactement le mariage.
Tout est plus compliqué en Suisse.
Il y a le, comment est-ce qu'on appelle ça, le Pax. Voilà, il y a le Pax, mais il n'y a pas le mariage.
Voilà. Ouais. Donc bon, vous avez encore à conquérir éventuellement le droit au mariage. Ouais. Mais surtout, si vous voulez, ce que je crois, c'est que cette idée qui était au cœur quand même de notre combat à l'époque, de cette idée de convergence des luttes, cette idée que c'était pas seulement la lutte des gays, mais la lutte de tous les opprimés, des pauvres, des migrants, des femmes, des transgenres, genre, etc., ben, c'était une idée qui nous traversait à l'époque, et cette idée-là, je pense qu'elle mérite qu'on y revienne aujourd'hui précisément, et c'est un petit peu ça dont aussi je parle dans mon bouquin sur Tel Aviv.
Voilà, alors justement, on va arriver au livre. Encore une ou deux petites questions justement pour te situer et puis situer effectivement le cheminement que tu as fait dans la production de cet ouvrage. Comment est-ce que tu observes notre actualité ? Il y a, semble-t-il, en tout cas ici pour Genève, il y a certainement une régression des droits LGBTI. Nous assistons à Genève, qui est une ville quand même beaucoup épargnée de plein de choses, mais nous avons assisté ici récemment à vraiment un surgissement de violences homophobes. Il se trouve que c'est compliqué parce qu'elles ne sont pas recensées en tant que telles, cas en Suisse, donc c'est compliqué de les détecter déjà. Mais voilà, dans les réseaux, on sait qu'on a eu des surgissements récemment de violences homophobes que l'on ne connaissait pas il y a encore quelques années. Comment toi tu observes la situation de ton point de vue ?
Alors, je ne pourrais pas me prononcer sur ce qui se passe à Genève parce que j'en sais rien, mais je peux me prononcer sur ce qui se passe globalement, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Et c'est un grand paradoxe, et c'est un paradoxe assez inquiétant, que à la fois les gays ont conquis des droits, ont conquis des droits en visibilité et tout, et en même temps, notamment via les réseaux sociaux, avec la violence que ça entraîne, notamment sur Facebook, des jeunes gays, des jeunes lesbiennes, des jeunes trans et tout, sont de plus en plus violemment harcelés au jour le jour, dans les écoles américaines, dans les écoles françaises, dans les écoles de Grande-Bretagne, etc. Et cette violence-là, cette violence sociale, cette violence des attaques, cette violence de la classe, elle est vachement préoccupante. Il y a eu quand même beaucoup de suicides aux États-Unis de jeunes gays et lesbiennes depuis 3-4 ans maintenant, et beaucoup de suicides, par exemple, à cause d'images qui ont été mises sur Facebook ou de choses comme ça. Donc je pense que l'homophobie, même si en termes de sondage, en termes de sociologie, on observe son recul globalement dans la population, elle est loin d'avoir disparu dans nos sociétés occidentales, on va dire, puisqu'il y a après l'homophobie en Afrique, l'homophobie dans le monde arabo-musulman, dont je reparlerai peut-être tout à l'heure, qui est un autre phénomène encore, et qui est tout aussi préoccupante, bien entendu.
Ouais. Alors avant qu'on se plonge dans l'ouvrage, une dernière question. Comment est-ce que toi, justement, tu expliquerais il me semble qu'il y a d'une certaine manière un retour à la morale dans certains coins. Également, effectivement, ces réseaux sociaux qui permettent d'accentuer des pressions et puis d'accentuer une vulnérabilité. Comment est-ce que toi, est-ce que tu as des pistes comme ça de réflexion à proposer de ton point de vue de nous ?
Pas réellement, parce que là, il faudrait faire une analyse un peu plus fine que je n'ai pas faite. Hein. Je n'ai pas fait d'enquête sur le sujet. Et donc, j'ai que des impressions. Là, je raisonne en termes d'acteurs du débat public, si tu veux. Hein. Mais je pense que là, il faut continuer à se battre. Il faut continuer à dénoncer. Il faut se battre pour des choses qui soient du domaine de la visibilité. Je pense en particulier aux trans en France. Pour être trans en France, il faut encore aujourd'hui passer devant un juge. C'est-à-dire que c'est le judiciaire qui va décider de l'état civil. Et ça, c'est un combat qui est mené en ce moment par les trans en France et qu'il est important de soutenir. De même, je pense qu'il faut continuer à mener un combat pour faire comprendre aux gays, globalement, mondialement et partout, que leurs intérêts ne sont pas des intérêts de communauté. C'est-à-dire que le communautarisme dans lequel on cherche à enfermer les sociétés aujourd'hui, à les catégoriser, à les limiter d'une certaine manière dans leur manière d'affronter les problèmes, ça me semble aussi aussi un très grand danger. Donc je pense que, bien sûr, on est gay, mais on est aussi citoyen, on est aussi militant, on est aussi engagé, on est aussi une personne du monde, on n'a pas seulement une identité. Une identité ne peut pas être en tout cas que sexuelle, pour moi, ça c'est clair et net.
Oui, absolument. Y a-t-il, est-ce que l'on voit qu'il y a, tout à l'heure je parlais d'héritage, est-ce que selon toi, les jeunes LGBTI, etc., actuellement, est-ce qu'on sent en leur sein, effectivement, alors comme on vient de le dire, on sent qu'il y a des violences homophobes qui surgissent, des violences contre la communauté LGBT. Est-ce qu'on sent qu'il y a une résistance qui s'installe par ça, qui s'organise, une analyse qui est faite également de tous ces nouveaux médias ?
Alors, je pourrais te répondre oui sur des pays que j'ai observés, c'est-à-dire Israël-Palestine en particulier, qui est le
on
sujet
va,
de mon
en
bouquin.
Plein, voilà, parce qui que est là, un livre d'enquête.
Un livre d'enquête, donc, absolument. Voilà. Donc là, j'ai des éléments de réponse. J'ai aussi un peu, ben, grâce à ce bouquin d'ailleurs, ça fait maintenant 2-3 mois qu'il est sorti, et j'ai fait pas mal de rencontres en France, dans des librairies, etc. Et je vois bien émerger une nouvelle communauté, enfin un nouveau courant plutôt que communauté, de jeunes gays et lesbiennes beaucoup plus radicaux que la génération précédente, qui ont 20 ans, qui se posent énormément de questions, ben, sur ce qu'est leur identité, sur ce qu'est l'engagement, sur leur engagement aux côtés des communautés qui sont racialisées en France, les Noirs, les Arabes, etc. Cette espèce de parano qu'il y a sur les banlieues et sur les territoires délaissés dans notre pays, la France. Donc si vous voulez, là oui, j'observe quand même, et ça m'a d'ailleurs réjoui d'une certaine manière, que mon livre puisse toucher des jeunes de 20 ans aujourd'hui et qu'ils puissent voir un outil aussi pour leur engagement.
Absolument. Alors on y va, on est complètement dedans. Jean Stern, Mirage gay à Tel Aviv, un livre d'enquête qui est sorti, comme tu viens de le dire, il y a de cela 2-3 mois. Alors un livre d'enquête, ça veut dire que comment tu as mené cette enquête-là ? Tu es parti sur place, comment ça s'est passé ? Explique-nous un petit peu.
C'est très simple. C'est une histoire un tout petit peu longue à raconter, mais je vais la raconter dans la longueur. En fait, ça fait longtemps que je vais en Israël et en Palestine. J'y suis allé au moins une quinzaine de fois, peut-être. Mais en 1996, j'avais décidé de ne plus y aller pour des tas de raisons, à la fois personnelles et politiques, je dirais. Je suis pas allé en Israël et Palestine pendant 13 ans. J'y suis retourné en 2009 parce qu'à l'époque, je suis journaliste. À l'époque, j'étais prof de journalisme. Et j'ai organisé avec quelques collègues un voyage scolaire d'étudiants en Israël et en Palestine en août 2009. Il se trouve que j'ai de la famille à Tel Aviv et que donc je suis parti 2-3 jours avant pour simplement voir ma famille que je n'avais pas vue depuis longtemps, évidemment. Et le soir où j'arrive à Tel Aviv, c'est le 1er août 2009, il y a un attentat au centre jeune gay lesbien qui est en plein centre de Tel Aviv, qui s'appelle le centre Bar Noir. J'apprends cet attentat en direct live. Évidemment, il y a une grande émotion dans la ville. Beaucoup, les gens affluent de partout. Il y a les ambulances. Cet attentat fera 2 morts et beaucoup de blessés. Et donc, je redécouvre Tel Aviv avec un choc, d'une certaine manière, lié à un fait divers qui est tragique. Le lendemain, il y a tout le gouvernement israélien pratiquement qui défile sur les lieux de l'attentat, en particulier le tout nouveau Premier ministre à l'époque, qui était Benjamin Netanyahou, qui est l'homme de la droite israélienne, qui avait déjà été Premier ministre plus tôt, mais qui revient de reprendre le pouvoir à ce moment-là, et qui va faire l'éloge de la tolérance, des droits des gays, de l'engagement de son gouvernement pourtant des droites aux côtés des gays, et la foule rassemblée devant Benjamin Netanyahou va entonner l'hymne sioniste. Et c'est une foule de milliers de personnes, surtout des gays, mais aussi des lesbiennes. Et je me pose des tas de questions. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé en Israël pour qu'il y ait l'émergence de cette communauté, et surtout qu'elle semble avoir un poids politique? Parce qu'il suffisait de commencer à me renseigner. Et je me suis aperçu qu'il y avait des élus municipaux au conseil municipal de Tel Aviv qui étaient gays. Le centre gay-lesbien, le plus grand centre gay-lesbien de Tel Aviv, pas celui où il y a eu l'attentat, venait d'ouvrir au printemps 2009, financé à 100% par la municipalité de Tel Aviv, avec quand même 11 salariés. Donc vous voyez, c'était pas tout à fait rien. Et donc, ça m'a donné l'idée de creuser un peu cette idée-là, d'autant plus que je commençais à entendre parler autour de moi de pas mal de gays parisiens qui allaient passer des week-ends ou des vacances à Tel Aviv, qui allaient pour la semaine de la fierté gay à Tel Aviv, la première semaine de juin. Elle vient de se terminer. D'ailleurs, la grande parade était vendredi, là, hier, à Tel Aviv. Il y avait 200 000 personnes. Donc, je me dis, comment tout ça s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est cette histoire. Et donc, à partir de 2009, j'ai commencé à retourner en Israël et en Palestine. Et ben voilà, j'ai fait une enquête journalistique, elle, extrêmement classique. J'ai vu des gens, j'ai interrogé des gens de tous bords, d'ailleurs, hein, puisque c'est ça le propre de l'enquête, c'est de voir des gens avec qui vous êtes d'accord ou des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et j'ai essayé de reconstituer cette histoire et, au fond, à la fois de la faire comprendre, d'en trouver les racines et de mettre l'accent sur le phénomène marketing qui a accompagné ça et qu'on appelle le pinkwashing.
Le pinkwashing, exactement. Mais alors, juste avant ça, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, Tel Aviv, est, The Bubble, est un peu une zone, disons, propice à vraiment la liberté d'expression, pareil, à comparer avec le reste d'Israël?
Ce mot de liberté d'expression est peut-être un peu compliqué. Il faut toujours penser qu'en Israël, il y a l'occupation de la Palestine, hein, et que les Palestiniens aujourd'hui sont privés d'une partie des libertés telles que nous les entendons, c'est-à-dire à commencer par la liberté de circulation, puisqu'ils sont à Gaza enfermés derrière un blocus, et en Cisjordanie, ils sont derrière un mur qui les empêche d'aller et venir librement, et ils sont en plus, pour ce qui est des Palestiniens, soumis à une surveillance constante de l'armée israélienne, surveillance de tous les aspects de leur vie d'ailleurs, hein, y compris leur correspondance électronique, leurs messages, etc. Et donc, parler de liberté d'expression, c'est compliqué. Par contre, on peut parler effectivement d'une bulle identitaire, mais cette bulle identitaire en Israël, il faut bien comprendre d'où elle vient. Elle vient de l'évolution de la société israélienne dans les années 80 et surtout les années 90, qui est passée d'une société d'inspiration socialiste, on va dire, avec le Parti travailliste au pouvoir, le kibbutz comme institution pivot, qui était quand même une institution collective, hein, le travail était collectif, la vie était collective, etc. Et on est passé à la grande privatisation lancée par la droite israélienne, après la mort de Rabin, après 94, de l'économie israélienne, qui s'est traduite par une montée en puissance de deux phénomènes à Tel Aviv. Le premier, et c'est complètement lié à l'importance de l'armée en Israël, c'est la high-tech. Il y a énormément de boîtes qui se sont montées. Les écoles de formation de high-tech sont très bonnes en Israël. Donc l'explosion du web, l'explosion des développeurs, etc. a beaucoup profité en Israël. Et d'ailleurs, se sont installés en Israël les labos de recherche de très grosses boîtes américaines comme Google, Apple, Microsoft, plus tard Twitter et Facebook, etc., etc. Donc cette montée en puissance de l'high-tech a créé des flux d'argent extrêmement importants puisqu'on gagne beaucoup d'argent très rapidement dans l'high-tech, comme vous le savez. Et donc, ça a contribué à faire monter en gamme Tel Aviv. On a construit des logements de plus en plus chers, on a ouvert des bistrots de plus en plus chics, et Tel Aviv avait des atouts naturels qui fait que c'est une ville au bord de l'eau, qu'il y fait toujours beau et tout. Cela dit, vendre de l'high-tech à des touristes, c'est quand même pas ce qui va les faire venir en premier. Par contre, le deuxième phénomène, c'est le fait que l'homophobie propre à la société israélienne, c'est en effet une société également très homophobe, on en parlait tout à l'heure, mais en Israël, vous avez à peu près 47% de la population qui considère que l'homophobie est une maladie, et ce chiffre monte à 71% dans la partie la plus religieuse de la population, ce qu'on appelle les orthodoxes et les ultra-orthodoxes, qui représentent 30% de la population globale. Donc vous voyez, il y a une homophobie très forte dans la société israélienne, et donc Tel Aviv, qui est devenue une ville plus libérale, plus moderne, entre guillemets, tout ça, a servi, entre guillemets, d'aspirateur pour les jeunes gays et les jeunes lesbiennes qui montaient à la capitale venant de tous les coins du pays pour ne plus avoir affronté l'homophobie de leur cercle, de leur famille, etc., de leurs proches. Donc, c'est vrai que Tel Aviv a changé de nature dans les années 90. Et puis, il y a eu un troisième phénomène très important dans tout ça, c'est en 1998, Dana International, qui est une chanteuse trans israélienne d'origine yéménite, obtient le Grand Prix de l'Eurovision. Et ça, c'est quelque chose qui a été un moment, encore une fois, de ferveur nationale en Israël, mais qui était intéressant parce que c'était à la fois une trans qui gagnait et c'était une trans d'origine yéménite. C'est-à-dire, c'était une juive misraï, séfarade, comme on dit en Europe occidentale, qui devenait l'icône d'un pays et l'icône d'une certaine nouvelle homosexualité, de presque d'un nouveau sionisme qui avait une image différente que celle du sionisme musclé, du soldat, ce qu'on appelle en Israël le sabra. Et donc, d'une certaine manière, Israël pouvait offrir au public gay occidental deux identités, deux propositions, entre guillemets. D'une part, le soldat bien musclé, bien baraclé, viril, etc., le sabra. Et d'autre part, si j'ose dire, la folle orientale qu'incarnait Dana International. Et le marketing, le pinkwashing, quand je dis le marketing, c'est parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent hein, en termes de campagne et tout, a joué sur les deux tableaux, puisque dans le même temps, et ça c'est très important, les gays occidentaux, pour des raisons qui sont très diverses et variées, hein, mais sont devenus beaucoup plus islamophobes et ont arrêté d'aller faire du tourisme, voire du tourisme sexuel, dans des pays comme l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, etc., qui devenaient des pays, entre guillemets, dangereux à leurs yeux. Et donc, Israël offrait une double alternative, une alternative touristique et une alternative de désir, pratiquement.
Bien sûr. Et alors, tout ça est déclamé, est expliqué, est argumenté dans cet ouvrage.
Oui.
C'est une enquête qui donc se passe sur plusieurs années, en fait, c'était des observations. Oui. Et c'est surtout ce qui a déclenché ça. J'ai l'impression que c'est cette différence entre un passé qui était et une fracture et puis une actualité que tu as pu vivre, que tu vis actuellement.
Exactement. En fait, pour bien expliquer le phénomène, ben, je suis remonté aux racines du sionisme, c'est-à-dire pratiquement à la fin du 19e siècle. Hein, donc, pour bien comprendre ça. Et ça nous amène jusqu'à aujourd'hui. Et ça nous amène aussi à regarder, hein, parce que la société israélienne, on la regarde évidemment fréquemment. On regarde la politique israélienne, on l'analyse. Il y a des tas de pages dans les journaux, etc. Mais on regarde assez peu la manière dont les gens vivent en Israël. On fait assez peu d'enquêtes en profondeur et on fait assez peu encore moins d'enquêtes en profondeur sur la manière dont vivent les Palestiniens. Et donc, j'ai voulu raconter dans ce livre à la fois ben, cette communauté gay dominante à Tel Aviv, ralliée au libéralisme et soucieuse principalement de ses intérêts sur toutes les formes, mais aussi tout ce qui existe en Israël, c'est-à-dire la communauté en Israël et en Palestine, c'est-à-dire la communauté alternative réelle à Tel Aviv. Hein. Il y a des gens qui ne supportent pas le marketing, le pinkwashing, les discours gay-friendly de Netanyahou et de tous les dirigeants de la droite israélienne. Et vous avez des gays et des lesbiennes en Palestine qui se battent courageusement contre leur oppression spécifique, oppression qui est évidemment liée au fait que la société palestinienne est une société conservatrice et traditionnelle. On ne va pas repeindre la Palestine en rose, ça ne serait pas le propos, mais liée aussi à l'occupation. Hein. Quand vous êtes enfermé dans un pays, évidemment, vous ne pouvez pas vivre librement votre identité, ce que vous êtes, et aller et venir comme bon vous semble.
Absolument, oui. Mais alors, selon toi, cette profession de foi de Netanyahou ou de son parti Kadima, y a-t-il là derrière une forme de récupération?
C'est du Likoud.
Est-ce que là, il y a une récupération?
Mais il y a une récupération totale.
Un calcul
total.
Voilà,
Netanyahou ne cesse, à chaque fois qu'il va à Washington, à chaque fois qu'il fait, ne cesse de dire à quel point Israël est un pays gay-friendly et a utilisé ça pour opposer Israël au reste du monde arabe, qui est évidemment pas du tout gay-friendly. Ça, il ne s'agit pas de dire ça. Il l'a été à une époque. L'Égypte était, on pouvait, si on en peut, ce mot est un peu absurde de gay-friendly, parce que l'Égypte en a fait jamais un argument marketing. Mais dans les années 80-90, le Caire était une ville où les gays pouvaient vivre relativement librement. Ça s'est durci à partir des années 2000. Les autorités égyptiennes ont fait fermer des clubs, des bars, des cafés, des saunas, etc. On fait des descentes de police dans des discothèques, ont arrêté des centaines de personnes, en ont jeté des dizaines en prison. Donc Netanyahou utilise le fait que le monde arabo-musulman est un monde qui s'est plutôt durci à l'égard de l'homosexualité ces 15 dernières années pour en faire un argument de propagande supplémentaire pour Israël, avec un message assez simple: Israël ne peut pas être aussi terrible qu'on le dit avec les Palestiniens, puisqu'elle est gentille avec les gays et les lesbiennes.
D'accord. Alors qu'on est là dans un problème d'intersectionnalité, puisqu'effectivement il y a ce problème des Palestiniens enfermés. J'imagine qu'il y a des histoires d'amour entre même entre Israéliens et Israéliens arabes qui doivent conduire à des situations tout à fait dramatiques.
Bien sûr.
Et j'imagine, alors voilà, ça c'est on est dans le cœur du livre.
Vous savez, c'est pas seulement des situations dramatiques, c'est aussi de l'utilisation, parce qu'il y a tout un cinéma de genre qui s'est construit en Israël, un cinéma homosexuel avec des réalisateurs homosexuels,
bien sûr,
etc.
Oui.
Et très souvent, pas toujours, Dieu merci, mais très souvent, ce cinéma de genre présente les Palestiniens comme des pauvres petites victimes de leur société homophobe, et la seule solution qu'ils ont pour s'en sortir, c'est de tomber dans les bras d'un beau garçon israélien qui, lui, évidemment, va être libéral, de gauche, etc. etc. Donc, c'est une illusion d'optique qui est entretenue, y compris par le cinéma, pas par tout le cinéma, encore une fois, mais par une partie du cinéma. Et au fond, ben, c'est vrai que pour beaucoup de gays palestiniens aujourd'hui, la seule solution, c'est l'exil. Hein, parce que quand vous arrivez à fuir la Palestine, à passer le mur, murs, à vous réfugier à Tel Aviv. Il y a plus de 2000 Palestiniens, semble-t-il, qui vivent aujourd'hui dans les quartiers sud, les quartiers pauvres, les plus pauvres de Tel Aviv. Israël ne le reconnaît pas, la Convention de 48 sur les réfugiés, parce qu'il considère qu'ils ne sont pas des réfugiés politiques. Et donc, ben, ils sont, c'est des sans-papiers, si vous voulez, qui errent. Beaucoup se prostituent, beaucoup ont des petits emplois au black, et beaucoup essayent de trouver à venir dans d'autres pays, mais c'est très difficile. Il y a deux pays qui, l'année dernière, ont accueilli quelques réfugiés gays et lesbiens venus de Palestine, qui sont la Suède et le Danemark. Point barre. Et quand je dis peu, c'est quelques unités, 5-6 pour le Suède, 5-6 pour le Danemark. Donc vous voyez, ça n'a pas de réalité. Et donc ces gens-là, ben, sont des sans-papiers, des sans-patries qui errent à Tel Aviv. Et donc évidemment, le jour où ils rencontrent un garçon israélien qui est prêt à s'occuper d'eux, d'une certaine manière, oui, c'est une porte de sortie, mais c'est une porte de sortie qui n'est malheureusement pas tellement glorieuse, on va dire, pour Israël, pour ces gens-là. Et c'est une espèce de lourdeur comme ça qui est parfois pénible à supporter quand on est sur place, effectivement.
Et cette contrebande, hein, c'est pas grave. Quand on parle de Mirage, justement, ça va jusqu'aux confins de Tsahal, puisqu'on fait de la propagande également par le biais de Tsahal, qui serait
bien sûr
cette armée également gay-friendly.
Tsahal est une armée gay-friendly. C'est même, et là aussi c'est un point d'histoire qui est intéressant à éclaircir, Tsahal est la deuxième armée au monde à avoir donné des droits aux gays dès 1995, juste après l'armée des Pays-Bas, pays connu pour sa tolérance historique, même si aujourd'hui on peut discuter de la tolérance des Pays-Bas compte tenu d'une partie de sa classe politique. Donc, mais c'était dès 1995, donc Israël a construit une armée gay-friendly au départ avec un argument assez simple: il faut mieux que les gays aient des droits dans l'armée pour qu'ils ne soient pas soumis à chantage de la part de l'ennemi. Hein. C'était l'argument principal. Et aussi parce que d'une certaine manière, l'armée israélienne qui entretient ce culte de la virilité qui est très importante en Israël, je vous parlais du Sabra tout à l'heure, c'est 3 ans de service militaire en Israël. Hein, vous le savez, c'est dès 18 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sursis, il n'y a pas de report. Vous sortez du lycée, vous allez direct à l'armée. Donc l'armée israélienne est vraiment une armée d'intégration à tous les sens du terme. Et donc, d'une certaine manière, cette armée a produit de l'homosexualité par ce culte de la vérité, ce culte du corps, ce culte du combat, etc. Donc évidemment, elle est en première ligne et aujourd'hui, elle l'utilise. Vous avez tout le temps des tournées de soldats israéliens dans les facs américaines. Il y a deux organisations qui s'en occupent, Stand With Us, il y en a une autre qui s'appelle Wider Bridge, qui organise des tournées. Et là, j'ai trouvé, d'ailleurs, c'est pas dans mon bouquin parce que c'est tout récent, un officier trans qui sert dans l'armée israélienne et qui a été faire une tournée à Seattle, aux États-Unis, dans les facs de Seattle, pour vendre cette armée qui était capable d'accueillir des officiers trans. Et elle a chanté les louanges d'Israël, pays merveilleux où il pouvait y avoir un officier trans dans l'armée. Et en même temps, quand quelqu'un l'a interrogé pour savoir ce qu'elle faisait dans l'armée israélienne, parce que c'est quand même, c'est l'armée, hein, c'est l'armée. Donc elle sert dans le Negev. Le Negev, c'est le sud d'Israël, au sud de Beersheba, c'est le désert, c'est la patrie des Bédouins. Bédouins qui sont la partie de la population israélienne la plus harcelée depuis des dizaines d'années, avec des dizaines de milliers de Bédouins qui vivent dans des villages, qu'on appelle les villages non reconnus, les villages non officiels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'existence légale aux yeux de l'État israélien. Et donc régulièrement, l'armée envoie des bulldozers, raser les villages, raser les maisons des Bédouins, etc. Et c'est un mouvement, et voilà ce que fait cet officier trans dans l'armée israélienne. C'est pour ça que vous parlez tout à l'heure du problème des luttes. Quoi. C'est pas parce que tu es trans dans l'armée que l'armée doit avoir grâce à tes yeux. Voilà un peu.
C'est incroyable parce que là, on assiste à vraiment un dispositif qui est mis en place pour effectivement nourrir, alimenter et maintenir ce mirage.
Absolument. Dispositif avec beaucoup d'argent, beaucoup de marketing, ouais. Des voyages de presse où on invite des journalistes LGBT du monde entier. L'année dernière, plus de 30. Du marketing, de la publicité sur les sites gays du monde entier, dans les médias gays du monde entier, sur les blogs du monde entier, du marketing direct dans les boîtes, des concours organisés avec des radios aux sympathies LGBT pour inviter des gens qui vont gagner un week-end à Tel Aviv, etc. Donc tous les dispositifs du marketing moderne sont mis à disposition de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, tout ça n'a pas été conçu que par Israël. Hein. Ça a été largement appuyé par des grandes agences de publicité internationales, par un cabinet spécialisé dans le marketing gay qui s'appelle Out Now et qui est basé aux Pays-Bas, qui travaille pour Israël, mais aussi pour des grandes marques comme Orange, comme IBM, pour des villes comme Stockholm ou Vienne, et qui travaille évidemment sur le côté gay-friendly vie de ces gay friendly supposés, hein, évidemment, ouais, bien sûr, ouais. De ces marques ou de ces villes.
Et alors, on pourrait s'interroger sur à qui profite le crime. Pourquoi est-ce que pourquoi c'est à ce point-là renforcé? Est-ce que pourquoi cette propagande est tellement prégnante?
Ça profite beaucoup à Israël, parce que il faut bien comprendre que ce pinkwashing et ce marketing qui s'est mis en place à partir de 2009 arrive à un moment où l'image d'Israël sur la scène internationale est à peine supérieure à celle de la Corée du Nord, pour vous donner un ordre d'idée. Donc l'image d'Israël est très mauvaise. C'est pas un pays où les gens ont envie d'aller, ou envie de passer des vacances, ou envie, etc. Et donc, en ciblant avec ce marketing spécifique la communauté gay, ben Israël, d'une certaine manière, a inversé son image dans la communauté gay, qui à la fois souvent a un fort pouvoir d'achat dans les pays occidentaux, se déplace très facilement, plus facilement que des hétéros, parce qu'ils n'ont pas des enfants, etc. Enfin, pas tous, maintenant il y en a de plus en plus, c'est un autre sujet, presque, encore que ça regarde aussi Israël d'une certaine manière. Mais bon, donc c'est un public fort pouvoir d'achat qui se déplace facilement et qui, d'une certaine manière, est leader d'influence. Et là, je vais vous dire une chose qui, pour moi, a été très, très intéressante dans l'enquête. Je suis allé à la Gay Pride de Tel Aviv en juin 2014. J'y suis retourné une deuxième fois en juin 2016. Et je faisais ce que fait tout journaliste, c'est-à-dire j'interrogeais les gens, pourquoi vous venez, etc. En 2014, la plupart des gens me répondaient, je viens pour m'amuser, je viens pour faire la fête, je viens pour les parties, je viens pour tout ça et tout. Et je leur disais la Palestine, et la plupart me disaient, oh c'est compliqué, je sais pas trop, je veux pas m'en mêler, etc. Donc ils bottaient plutôt en touche. Et là, en 2016, donc l'année dernière, j'étais très frappé de l'évolution des réponses. Alors, là, les premières étaient les mêmes. Je viens pour m'amuser, je viens pour faire la fête, etc. Mais quand je les interrogeais un peu plus, c'est la Palestine, etc. La deuxième réponse était plutôt Israël a raison avec les Arabes. C'est-à-dire que le travail de marketing qu'a fait Israël fait qu'une partie de la communauté gay occidentale aujourd'hui soutient Israël, dans son combat contre les Palestiniens. Et donc, d'une certaine manière, le marketing a permis de retourner une partie de l'opinion publique occidentale, au moins ce volet gay-là.
Là, effectivement, on saisit plus le sens de cet effort de guerre, j'aurais envie de dire, mais cet effort de propagande, de tout ce qui est fait. On arrive tout doucement, parce qu'il est 16h15 déjà, à la fin de cet entretien. J'aurais juste une dernière question, Jean Stern, en te remerciant de nouveau d'avoir pris du temps dans ton agenda, assez serré quand même. Mais selon toi, y a-t-il des modalités de sortie de cette situation-là? J'imagine que c'est une question sans réponse définitive, bien entendu.
Ben, écoute, je vais te dire une chose. Cette année, on est en 2017, donc j'ai fait ce livre, je l'ai écrit au début de cette année, à la fin de l'année dernière, etc. Un peu solitaire, un peu désespéré. Libertalia, mon éditeur, m'a soutenu et j'étais bien content d'avoir trouvé un éditeur qui me soutienne. Mais depuis qu'il est sorti, ben, j'observe que pas mal de gens commencent à se dire « Ah oui, ça mérite réflexion ». Un ami qui allait beaucoup à Tel Aviv faire la fête, comme beaucoup d'autres, a lu mon livre et m'a fait un SMS, un texto juste après la lecture pour me dire « Tu m'as ouvert les yeux, je n'irai plus à Tel Aviv ». Donc ben, si mon livre peut servir à ça, c'est bien. Il y a d'ailleurs cette année, c'est une première, plusieurs cinéastes qui étaient invités au Festival de films LGBT qui accompagne la semaine gay à tout début juin, dont un cinéaste sud-africain, John Trengrove, qui ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas à Tel Aviv et qui ont demandé que leur film ne soit pas présenté à Tel Aviv. C'est quelque chose d'assez nouveau quand même. Hein. C'est-à-dire qu'une petite partie des artistes invités de la communauté gay et lesbienne internationale, et je dirais surtout gay parce que les lesbiennes n'ont jamais été concernées par le marketing d'Israël, ça visait vraiment les gays, une bonne partie de la communauté gay, mais impulsés par les lesbiennes ont un rôle quand même, parce qu'en Israël, les lesbiennes sont pour souvent les leaders de la radicalité et de l'opposition au gouvernement israélien et de l'engagement aux côtés des Palestiniens. Il ne faut pas oublier qu'Israël est le pays des femmes en noir, qui est un mouvement porté par des femmes, des féministes, hétérosexuelles comme lesbiennes, et qui est un mouvement très important de lutte contre l'occupation, même si aujourd'hui, il a à peu près disparu de la scène publique. Donc voilà, je crois que malgré tout, mon livre, d'autres témoignages, l'attitude de certains acteurs du secteur culturel qui refusent de servir de caution culturelle à la politique du pinkwashing, ça encourage plutôt et permet de se dire qu'à un moment ou un autre, on va aussi entendre la voix des Palestiniens et des Israéliens, des Palestiniennes et des Israéliennes qui se battent tous les jours contre le pinkwashing en Israël et en Palestine, et il faut le dire jusqu'à présent dans une relative indifférence de l'opinion publique mondiale.
Très bien, d'accord. Écoute, Jean Stern, Mirage Gay à Tel Aviv, un livre d'enquête paru aux éditions Libertalia.
Voilà.
Effectivement, je te remercie beaucoup de toutes ces informations. Je suppose qu'un livre d'enquête, peut-être on appelle un deuxième plus loin pour faire une sorte de bilan de ce que l'on a observé.
Je ne sais pas.
On verra alors. En tout cas, nous, on se tiendra au courant parce que c'est vrai que nous, on aimerait bien avoir un retour sur effectivement, dans quelques temps, ce que ce livre va provoquer chez toi et chez les lectrices et les lecteurs qui vont le saisir.
Avec plaisir, voilà. On en reparlera.
Très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup et puis bonne
merci
continuation pour la tournée de promotion du livre.
Merci à vous.
Voilà, alors nous, on se fait une petite pause musicale et puis juste derrière, nous reviendrons avec une interview d'une chanteuse qui est de passage ici à la fête de La Ville est à vous à Sécheron. A tout de suite.